RCJ, à l'écoute de votre vie. RCJ Midi, Elsa Parienté.
Bonjour à toutes et à tous, bonne année, bienvenue sur RCJ. Si vous nous rejoignez, il est midi. Au programme de cette édition, les chiffres du Bureau israélien des statistiques sur la démographie israélienne. On en parlera avec Julien Balou, le point écho de la semaine ensuite avec Gilles Belaïch. Puis on retrouvera Anne-Marie Baron pour son coup de cœur cinéma de la semaine et Jérôme Attal pour l'histoire juive du jour. On finira avec l'interview de Ruben Baruch, écrivain, par Nathalie Cohen pour Academ l'actualité. Tout de suite sur RCJ.
Le journal.
Le Wall Street Journal a rapporté ce matin que selon des médiateurs arabes, les négociations entre Israël et le Hamas sur la libération des otages sont une fois de plus dans l'impasse selon le rapport. Cela est dû au fait que l'organisation terroriste a une fois de plus insisté sur sa demande qu'Israël s'engage à un cessez-le-feu complet et immédiat. Il a également été rapporté que l'administration Biden a exprimé sa frustration face à la situation. Il semble qu'aucun accord ne soit attendu avant l'entrée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le chef de la direction du personnel de Tsahal, le major général Dado Bar Khalifa, a donné pour instruction que toutes les familles endeuillées, dont les proches sont tombés le 7 octobre, soient autorisées à écouter les derniers enregistrements de leurs proches tués. Cela se fera en fonction de l'avancement des enquêtes et en coordination avec l'armée israélienne. L'armée israélienne qui a annoncé par ailleurs que deux projectiles ont été tirés depuis le centre de la bande de Gaza vers Israël dans la nuit, dont l'un a été intercepté et l'autre a atterri dans une zone inhabitée. Israël avait déjà annoncé samedi, dimanche et lundi avoir été visés par des projectiles tirés depuis Gaza, tous interceptés ou tombés dans des zones non habitées. Des soldats de Tsahal ont identifié des terroristes du Hezbollah qui transféraient des armes d'un dépôt d'armes vers un véhicule stationné à proximité dans le sud du Liban. Pour éliminer la menace, l'armée de l'air israélienne a frappé le dépôt d'armes et le véhicule, a annoncé ce matin l'unité porte-parole de Tsahal. Tsahal opère conformément aux accords du cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Tsahal reste déployé dans le sud du Liban et opérera contre toute menace contre l'État d'Israël et ses citoyens, a déclaré l'armée. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est réjoui de l'adoption d'une très importante loi budgétaire, tout en reprochant au ministre de la Sécurité intérieure Itamar Ben-Gvir d'avoir tenté de la faire capoter. Aujourd'hui est un jour important et une grande victoire pour la coalition, a déclaré Benjamin Netanyahou par voie de communiqué, affirmant que la loi adoptée à une très courte majorité était cruciale pour l'économie et la sécurité d'Israël, contre l'avis des médecins. D'ailleurs, le Premier ministre a quitté la salle de réveil de l'hôpital et s'est précipité à la Knesset pour voter, ce qui s'est avéré être le scrutin décisif pour cette loi de finances, finalement adoptée par 59 voix contre 58. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, doit convoquer ce jeudi une réunion avec les ministres pour discuter des options possibles pour la gouvernance de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne devrait pas y participer car il se remet de son opération. La réunion de cabinet de sécurité prévue cette semaine a été annulée. Un nombre inhabituel d'Israéliens, environ 82 700, ont quitté le pays en 2024 en raison de la guerre en cours, selon les données publiées mardi par le Bureau central des statistiques d'Israël pour le début de la nouvelle année. Le rapport du CBS met également en évidence le solde migratoire international du pays qui mesure la différence entre le nombre de personnes s'installant en Israël et celles qui le quittent à la fin de 2024. Le solde s'élevait à moins 18 200, ce qui reflète une perte nette de population. Le président américain élu Donald Trump a déclaré que les otages devraient être libérés rapidement, s'exprimant devant sa propriété de Floride où il a organisé une fête de réveillon du Nouvel An. Interrogé sur ses avertissements concernant, je cite, « l'enfer sur Terre s'ils ne sont pas libérés », il a répondu « nous verrons ce qui se passera ». La prochaine série de négociations nucléaires entre l'Iran et trois pays européens aura lieu le 13 janvier prochain à Genève. L'Iran a tenu des négociations sur son programme nucléaire controversé en novembre 2024 avec la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. L'Arabie Saoudite a lancé un pont aérien humanitaire vers la Syrie pour acheminer nourriture, abris et fournitures médicales en soutien au pays après le renversement de Bachar al-Assad, a rapporté l'agence de presse saoudienne. Ce pont aérien, mis en place par le Centre saoudien d'aide humanitaire et de secours, vise, je cite, atténuer les effets des conditions difficiles que traverse actuellement le peuple syrien. Selon l'agence, deux avions ont décollé de Riyad dans la matinée pour Damas. La Corée du Sud va envoyer aux États-Unis à des fins d'analyse. L'une des boîtes noires du Boeing 737-800 qui s'est écrasée il y a 3 jours à Wuhan, faisant 179 morts sur les 181 passagers, annoncé un responsable gouvernemental. L'avion de la compagnie à bas coût sud-coréenne transportait au total 181 personnes, dont 6 membres d'équipage. Toutes sont mortes à l'exception d'une hôtesse et d'un steward, ce qui en fait la pire catastrophe aérienne de l'histoire sur le sol sud-coréen. Des enquêteurs sud-coréens et américains, notamment de Boeing, passent au peigne fin le site de l'accident, survenu pour rappel dimanche matin à l'aéroport de Wuhan. Une personne a été tuée et 7 autres blessés à Kiev par une attaque de l'armée de Moscou qui a lancé une vague de 111 drones sur l'Ukraine pour le jour de l'an. Cette frappe du premier jour de l'année 2025 intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait exprimé la veille dans ses vœux que cette année soit celle des négociations qui devront mettre fin à la guerre. Le président russe Vladimir Poutine avait, lui, menacé fin décembre de frapper le centre de Kiev en réponse à l'utilisation des armes longue portée américaines et britanniques sur le territoire russe. Le ministre polonais des Affaires étrangères a salué la fin du transit du gaz russe via l'Ukraine, considérant ce geste comme une nouvelle victoire sur Moscou. Kiev et Moscou ont confirmé dans 2 communiqués séparés que les livraisons de gaz russe à l'Europe via l'Ukraine avaient définitivement cessé ce matin après l'expiration d'un contrat quinquennal signé entre les 2 parties fin 2019. Selon Kiev, grâce à cette démarche, la Russie perdra des marchés et va subir des pertes financières. En France, Emmanuel Macron a fait, lors de ses vœux pour 2025, son mea culpa sur la dissolution de l'Assemblée nationale qui a semé, je cite, « division et instabilité » avant d'appeler au ressaisissement collectif face à la grave crise politique qu'elle a provoquée. Le chef de l'État a aussi annoncé dans la traditionnelle allocution de la Saint-Sylvestre qu'il demanderait, lors de l'année qui s'ouvre aux Français, de trancher certains sujets déterminants pour préparer l'avenir. Une manière de laisser entrevoir des référendums ou de nouvelles conventions citoyennes après celle sur la fin de vie ou encore celle sur l'écologie. Dépourvu d'un budget en bonne et due forme pour 2025, le gouvernement a reconduit in extremis les plafonds de crédit des ministères initialement accordés pour 2024, mais compte les limiter aux dépenses essentielles jusqu'à l'adoption d'un budget pour l'État. Et enfin, un groupe de hackers a revendiqué des attaques informatiques visant des sites internet de villes ou départements français en représailles au soutien français à l'Ukraine. À ce stade, 23 sites, dont celui de la préfecture de police, ont été recensés comme victimes, selon le parquet de Paris, qui s'est saisi des faits et a confié l'enquête à la Direction générale de la sécurité intérieure. Et on part tout de suite direction Israël. En Israël, l'année civile a débuté comme partout dans le monde, mais cette nouvelle année a un goût amer pour beaucoup de monde, notamment les familles des otages. Racontez-nous, Julien, comment ce 1er janvier est vécu en Israël?
Oui, bonjour. Bah, écoutez, ce 1er janvier, déjà, 1er janvier, il faut savoir, en Israël, c'est toujours un peu particulier pour ceux qui ont l'habitude de fêter le nouvel an, parce que, pas tout le monde le sait, mais le 1er janvier n'est pas férié en Israël. Donc, on travaille. Nous travaillons ce matin. Les enfants vont à l'école, plutôt bien de rien, parce que là, ce sont les vacances de Hanouka. Mais voilà, c'est un jour comme un autre. Donc, les Israéliens ne peuvent pas trop se permettre de faire la fête jusqu'au bout de la nuit, sauf si ça tombe pendant un week-end, mais là, ce n'est pas le cas. Et puis, vous le disiez, c'est un nouvel an avec un goût amer cette année, hein, notamment pour les familles des otages, mais pas uniquement, pour beaucoup de monde. Comment se dire bonne année? Comment se réjouir lorsqu'on sait qu'il y a 100 Israéliens depuis plus de 450 jours otages de barbares, hein, dans la bande de Gaza? Et surtout ce constat, en fait, de se dire que le 31 décembre 2024, on se souhaite la même chose que le 31 décembre 2023, à savoir la libération des otages, à savoir le retour de nos amis qui sont en Elohim. Et on se dit, c'est le deuxième réveillon de Nouvel An qu'on passe dans les mêmes conditions, finalement. Alors, les choses, évidemment, ont beaucoup changé, hein. Il y a beaucoup de choses bien qui se sont passées cette année, mais de se dire qu'on en est encore là après tout ce temps, c'est forcément très difficile, très douloureux. Et puis, on va pas se mentir également, il y a quand même cette sensation étrange de se dire, c'est une nouvelle année, c'est une nouvelle journée, mais dans nos têtes, dans nos esprits, nous sommes encore le 7 octobre 2023. Et je sais pas, c'est quelque chose qui est très percevable à l'étranger, qui est compréhensible de loin, mais en fait, pour beaucoup d'entre nous, le temps s'est arrêté il y a plus de 450 jours, et on a du mal à passer à autre chose, dans le sens où les otages ne sont pas revenus, dans le sens où il y a des deuils régulièrement, dans le sens où voilà, on annonce des morts, parfois des soldats qui sont tués, mais une fois le deuil passé, une fois l'enterrement passé, une fois la Shiva passée, ce sont des vies qui sont détruites, des familles qui sont détruites à tout jamais, et le deuil a été très très présent cette année. Donc forcément, cette année, c'est difficile de faire la fête, de se souhaiter une bonne année alors qu'on est dans des telles conditions, c'est un petit peu compliqué. Puis malgré tout, on essaye de regarder le positif en se disant il y a eu des choses assez extraordinaires qui se sont passées pour l'État d'Israël cette année. Lorsqu'on compare la situation de l'État d'Israël entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2023, forcément, on est dans une meilleure situation sécuritaire. On ne va pas se mentir, Israël a eu des exploits extraordinaires cette année contre nos ennemis. Donc ce sont aussi des choses qu'il faut relever. Je vous rappelle que le 31 décembre 2023, on était vraiment attaqué de toutes parts. Et un an après, le Hamas est en miettes, le Hezbollah a été entièrement décapité, l'Iran a été frappé à plusieurs reprises, la Syrie est tombée. Donc c'est quand même des prouesses extraordinaires de l'État d'Israël qu'il faut relever.
Et quelques heures avant le début de 2025, le Bureau des statistiques a publié des chiffres détaillés sur la population israélienne, avec notamment ce cap symbolique franchi. On compte désormais plus de 10 millions d'habitants en Israël.
Ah oui, ça y est, pour la première fois depuis la naissance de l'État d'Israël, nous sommes plus de 10 millions, ce qui est évidemment extrêmement symbolique lorsqu'on sait hein, tout le chemin parcouru par l'État d'Israël. Alors, quelques détails, dans ces 10 millions, 74% de la population israélienne, ce sont des juifs, 21% des musulmans, et 5% d'autres religions. Au sein de la population juive, c'est assez intéressant de voir pour le moment la séparation, plutôt disons le détail de la population juive. 44% sont considérés comme chilonim. Alors chilonim, c'est une traduction un petit peu compliquée en français parce que laïque n'est clairement pas le mot, il n'y a pas de laïque en Israël. Disons qu'on va dire que ce sont des gens qui ne sont pas religieux. 33% sont ce qu'on appelle des traditionalistes. 11% sont des religieux. Alors quand on dit religieux en Israël, c'est tendance, disons, Bnei Akiva, tendance consistoriale, si vous voulez. Ceux qui font Shabbat, ceux qui mangent kasher, ceux qui vont à la synagogue régulièrement, qui vont à l'armée, et 11% ceux qui sont orthodoxes, donc Haredim. Donc voilà, il y a 44% de personnes qui se disent pas religieuses. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire par religieux en Israël? Parce que de toute façon, on fait ensemble le dîner de Shabbat, on se voit pour les fêtes, etc., etc. On est très loin de la conception non religieuse qu'on peut évidemment imaginer à l'étranger, mais c'est comme ça que c'est défini en Israël. On est à peu près à 50% de femmes et d'hommes en Israël. Et puis, ce qui est intéressant de voir également, c'est ce détail démographique avec une population qui est très jeune. Il y a en Israël 3 millions et quelques qui ont moins de 18 ans et il y a à peine 1,2 million qui ont plus de 65 ans. Donc c'est une population qui est extrêmement jeune. Les 18-65 ans sont la plus grande majorité, mais c'est une population qui est jeune. Israël est un pays qui fait pas mal d'enfants, ce qui est une bonne chose évidemment pour la démographie. Le grand problème qui s'annonce par contre à l'horizon, ça va être le fait qu'on va être un petit peu nombreux sur ce territoire qui est assez étroit, donc il va falloir trouver des solutions de logement, il va falloir trouver des solutions pour circuler. Il y a des énormes problèmes d'embouteillage, on le sait. Il va falloir également faire en sorte que tout le monde trouve du travail. On sait qu'il y a ce grand défi qui est l'emploi pour la société orthodoxe. Et puis, quelques données sur l'immigration en Israël. C'est évidemment important pour ceux qui nous écoutent à l'étranger, mais il y a des choses qui sont inquiétantes. Il y a 53% des gens qui ont émigré en Israël, qui ont émigré avant les années 90 et 50% après les années 90. Ce qui est important de noter, c'est que 2023, et ça c'est un chiffre qui est inquiétant, 2023 a été une année record du nombre d'Israéliens qui ont quitté le pays, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Et 2024 risque également de s'annoncer comme une année record. Et ça, on le voit dans de nombreux domaines, et surtout les domaines les plus qualifiés. Et ça risque d'être dramatique, parce que si le pays commence à perdre ses cerveaux, on va se diriger vers un très sérieux problème dans les prochaines années. Donc on va espérer évidemment que la tendance va rapidement s'inverser.
Merci beaucoup Julien Balloul pour toutes ces explications. Restez avec nous sur RCJ, on se retrouve dans un instant pour la chronique écho de Gilles Bellej.
RCJ Midi, Elsa Parienté.
Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 et sur le site kkl.fr.
En Israël, chaque seconde compte. Sous la menace constante de missiles, le Magen David Adom est en première ligne pour sauver des vies. Ils ont besoin de vous, maintenant. Chaque don permet d'apporter des soins vitaux, de secourir les blessés et de protéger les civils. Faites un don aujourd'hui et devenez un acteur du sauvetage de vie en Israël. Rendez-vous sur mda-france.org.
mda-france.org.
Magen David Adom,
association au service de la vie.
RCJ Midi, Elsa Parienté.
Midi 15 sur RCJ, les jeux d'argent entre rêve et addiction, c'est la chronique Écho de Gilles Belaïch tout de suite.
Écho, Gilles Belaïch.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Avant de commencer, permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2025, que cette année soit synonyme de santé, de joie et d'amour, car au fond, ce sont là les vraies richesses de la vie. Et pourtant, combien parmi vous espèrent secrètement que cette année soit celle d'un ticket gagnant, d'un jackpot qui changerait tout, car les jeux d'argent, qu'ils soient en ligne, dans les casinos ou sous la forme de loterie, continuent de faire rêver des millions de personnes dans le monde. C'est un phénomène mondial colossal. L'industrie des jeux d'argent pèse aujourd'hui plus de 400 milliards de dollars dans le monde. Et certains pays se distinguent par leur engouement. Prenons les États-Unis par exemple, où les jeux d'argent rapportent près de 120 milliards de dollars par an. À Las Vegas ou Atlantic City, le casino est presque une religion. En Asie, Macao a supplanté Las Vegas, générant près de 40 milliards de dollars par an, notamment grâce à l'afflux massif de joueurs chinois. En Europe, le Royaume-Uni est l'un des pays où il y a le plus de joueurs, avec une industrie qui dépasse les 15 milliards d'euros chaque année, portée par les paris sportifs. La France, quant à elle, n'en est pas en reste, avec plus de 12 milliards d'euros de revenus générés par les jeux d'argent en 2022 et une forte croissance, notamment dans les paris sportifs. Mais c'est avant tout une jeunesse piégée par l'illusion du gain. Derrière ces chiffres impressionnants se cache une réalité tout autant préoccupante. L'addiction, en particulier chez les jeunes. Avec l'explosion de plateformes numériques, il suffit de quelques clics pour parier sur un match ou acheter un ticket de loterie. Résultat, en France, 20% des jeunes de 18 à 24 ans déclarent avoir déjà eu des difficultés liées aux jeux d'argent. Les paris sportifs sont au cœur du problème. Ces jeux ciblent particulièrement les jeunes, avec des campagnes publicitaires omniprésentes et des promesses de gains rapides. Mais ce qu'on oublie souvent de mentionner, c'est que ces jeux sont conçus pour vous faire perdre, si vous l'aviez oublié. Les chances de victoire sont dérisoires. Prenons un exemple frappant. La probabilité de gagner à l'euro-million ou au pari sportif, c'est de 1 sur 139 millions. Autrement dit, il est bien plus probable d'être frappé par la foudre que de gagner. Et pourtant, des milliers de personnes dépensent des sommes importantes, espérant acheter un rêve. Mais ce rêve se transforme souvent en cauchemar. L'endettement, les conflits familiaux et les problèmes psychologiques sont des conséquences fréquentes de l'addiction au jeu. Alors, le gouvernement français a une idée, la fiscalité alourdie pour limiter les dégâts. Face à cette situation alarmante, certains gouvernements tentent de réagir. En France, l'État prévoit d'intensifier la fiscalité sur les jeux d'argent en 2025, avec deux objectifs, limiter l'addiction et financer des campagnes de prévention. À l'échelle internationale, des pays comme la Suède ou l'Australie, où les jeux d'argent sont également très populaires, mettent en place des politiques strictes pour encadrer la publicité et protéger les joueurs vulnérables. Mais ces mesures suffiront-elles face à une industrie aussi puissante? Il est certain que la prévention doit être renforcée, notamment auprès des jeunes, pour rappeler que jouer n'est pas une solution miracle face à des problèmes financiers ou personnels. Alors, en ce début d'année, permettez-moi de vous poser une question. Et si le vrai jackpot, c'était simplement d'être en vie, d'apprécier ce que l'on a, entouré de vos proches, en bonne santé? Certes, l'idée d'un gain instantané peut faire rêver, mais la vraie richesse, celle qui compte vraiment, se trouve dans les moments partagés, les rires et l'amour. Jouer peut être un plaisir, mais seulement s'il reste une activité occasionnelle, encadrée et raisonnable. N'oublions jamais que derrière l'illusion du gain se cachent des probabilités ridicules et des conséquences souvent dramatiques pour les plus fragiles. Alors, plutôt que de chercher la fortune dans un ticket à gratter, pourquoi ne pas miser cette année sur des projets qui ont du sens, sur votre santé, vos relations et vos rêves, ce que vous pouvez construire par votre propre volonté, et non par le hasard. Je vous souhaite à toutes et à tous une année 2025 pleine de belles surprises, mais surtout riche en amour, en santé et en bonheur partagé. Prenez soin de vous et rappelez-vous que la vraie richesse n'est jamais une question de chance. À très bientôt pour une nouvelle chronique.
Merci beaucoup Gilles Belaïch, midi 20 sur RCG. On retrouve tout de suite Anne-Marie Baron pour son coup de cœur cinéma de la semaine.
Cinéma, Anne-Marie Baron.
Nouveaux étudiants, bienvenue à l'université de Chine.
Après deux décennies sur scène à Broadway, la comédie musicale Wicked arrive sur nos écrans dans le film de John Chu, déjà en bonne place pour les Oscars. Une version entièrement française, depuis les dialogues jusqu'aux chansons, a été pensée pour permettre à l'ensemble des spectateurs de profiter au mieux de cette genèse enchantée du magicien d'Oz. Avec 263 millions de dollars rapportés en seulement 8 jours aux États-Unis, c'est une tornade qui s'annonce aussi chez nous, à l'image de celle qui a transporté Dorothy du Kansas au pays d'Oz dans Le Magicien d'Oz. L'intrigue de Gregory Maguire, portée par Ariana Grande et Cynthia Erivo, imagine ce qui s'est passé avant l'arrivée de l'héroïne aux chaussures rouges, jadis campé par Judy Garland au cinéma. Wicked est l'histoire d'une enfant née verte, couleur des reptiles et de tous ces personnages qui ont marqué des générations, Hulk, Shrek ou le Grinch. Avant d'être associée à l'écologie, cette couleur a eu une connotation négative, évoquant mensonges, perfidie, hypocrisie, mort, danger, poison, violence, guerre. Elle a donc été associée ici à la sorcière Elphaba, tandis que Glinda, la bonne sorcière, est toute rose de peau et de rose vêtue. D'abord ennemie, puis amie et complice, elles vont révolutionner le collège de Cheese. Deux autres immenses acteurs interprètent la prof de sorcellerie, Madame Morrible, et le magicien d'Oz, Michelle Yeoh et Jeff Goldblum. Ce film permettra d'expliquer aux enfants comment la langue est utilisée pour inciter à la violence contre les minorités et les voix dissidentes dans une société, c'est-à-dire le pouvoir de la propagande. Le déclencheur est le mot « méchant » que répète à l'envi dans le prélude Glinda. Pourtant, un flashback va nous montrer qu'Elphaba, la méchante sorcière, a refusé d'aider le magicien à persécuter les animaux qui parlent et a eu le courage de fuir la cité d'Émeraude. Cet éloge de la résistance, de la différence et de la tolérance va plaire à tous les enfants. Mais surtout, des grimoires magiques, des décors fabuleux, un rythme endiablé et des effets spéciaux à couper le souffle vont certainement les enchanter pendant les fêtes de Hanouka.
Merci beaucoup Anne-Marie Baron. On retrouve à présent Jérôme Attal qui, comme chaque jour, nous met en perspective une date de l'histoire juive.
L'histoire du jour, Jérôme Attal.
Le 1er janvier 1947, le procès de Dov Gruner débuta devant un tribunal militaire. Militant sioniste, il est né à Kisvarda, en Hongrie. En 1940, grâce au mouvement de jeunesse sioniste Betar, il réussit à rejoindre la Palestine mandataire à bord d'un navire d'immigration illégale. En 1941, il rejoint l'armée britannique pour combattre les nazis et avec la brigade juive, il vient en aide aux survivants de la Shoah en Europe. En 1946, membre de l'Irgun, il dirigeait une opération commando contre un dépôt de l'armée britannique. 10 jours plus tard, il lance un autre raid contre le commissariat de police de Ramat Gan. Une fusillade s'ensuit. Dov est grièvement blessé au visage. Ses acolytes ont réussi à s'enfuir avec les armes anglaises, accomplissant ainsi leur mission. Mais Dov Gruner est fait prisonnier par les Anglais. Le 1er janvier 1947, son procès débuta. On lui demande d'avouer sa culpabilité, ce à quoi il a répondu qu'il ne reconnaissait pas l'autorité de ce tribunal et a déclaré « Les Juifs continueront à vous combattre jusqu'à ce que vous quittiez cette terre et la remettiez à ses propriétaires légitimes, le peuple juif. Vous devez savoir qu'il n'y a pas de pouvoir au monde qui puisse rompre le lien entre le peuple juif et son unique terre. Quiconque essaie, sa main sera coupée et la malédiction de Dieu reposera sur lui pour toujours. » Fin de citation. Le 16 avril 1947, Dov Gruner sera exécuté à la prison d'Acre par les Britanniques. En 1950, le Moshav Misgav Dov est nommé ainsi en son honneur. En 1954, la place devant le commissariat de police de Ramat Gan a été rebaptisée place Gruner. Son frère nomma son fils Dov et deviendra le sergent Dov Gruner, parachutiste émérite de Tsahal, qui, en 1967, pendant la guerre des six jours, a été le premier soldat israélien à atteindre le Kotel. Aujourd'hui encore, plusieurs rues en Israël portent son nom. Nous sommes le 1er janvier.
Et merci beaucoup Jérôme Attal, midi 25 sur RCJ, restez avec nous. On se retrouve dans un instant, ce sera une interview de l'écrivain Ruben Baruch.
RCJ midi, Elsa Parienté.
En Israël, chaque seconde compte. Sous la menace constante de missiles, le Magen David Adom est en première ligne pour sauver des vies. Ils ont besoin de vous. Maintenant, chaque don permet d'apporter des soins vitaux, de secourir les blessés et de protéger les civils. Faites un don aujourd'hui et devenez un acteur du sauvetage de vie en Israël. Rendez-vous sur mda-france.org.
mda-france.org.
Magen David Adom,
association au service de la vie.
C'est Laurent Couson. Retrouvez mon nouvel album Night Music, disponible sur toutes les plateformes. Night Music, c'est un album de piano solo, enregistré en quelques nuits, qui regroupe de nouvelles versions de mes thèmes de musique de film et des nouveautés. Un album intime, méditatif, amoureux. Night Music, mon nouvel album, c'est pour vous.
RCJ Midi, Elsa Parienté.
Midi 27 sur RCG, on finit cette édition avec Ruben Baruch, écrivain qui est interviewé par Nathalie Cohen-C pour Academ.
On a pu dire, à propos de certains endroits en Europe, de certaines villes d'Europe de l'Est, comme Vienne ou Varsovie, qu'elles étaient pleines de juifs qui n'étaient plus là, qu'elles étaient habitées par des fantômes en quelque sorte. Mais dans le roman de Ruben Baruch, il n'est pas tant question de fantômes que de bruit. Un bruit mystérieux et entêtant qui hante une vieille dame juive restée vivre dans son Marrakech natal et qui ne peut être perçue que par elle. Tout le bruit du Guélize est le titre de ce premier roman d'un jeune auteur plein d'humour, tendre et virtuose, paru à la rentrée littéraire chez Albin Michel et sélectionné par les jurys de plusieurs prix. Ruben Baruch, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous résumer très brièvement l'intrigue de ce roman et nous dire quelques mots, juste quelques mots sur ce bruit mystérieux?
Ce roman, c'est l'histoire d'un voyage que j'ai fait en mars 2022 avec ma mère. Nous sommes allés rencontrer ma grand-mère,
oui,
qui vit à Marrakech, dans le quartier du Guélize, qui est par opposition à la vieille ville, qui est la Médina à Marrakech.
Oui.
Le quartier de ce qu'on définirait comme la ville nouvelle de Marrakech, le Guélize, où ma grand-mère vit, a vécu, et des générations avant elle ont vécu aussi ici. Ma mère est née là-bas. En mars 2022, et quelques semaines, quelques mois, qu'elle se plaignait d'entendre un bruit. Un bruit mystérieux. Mm-hmm. Qu'elle ne parvenait pas du tout à décrire, ni à identifier, ni à chasser, mais qu'elle entendait dans son appartement ce bruit-là. Ce bruit lui menait la vie noire. Il gâchait ses jours, il gâchait ses nuits, elle ne pensait qu'au bruit. Au moment où le bruit prenait trop de place dans nos conversations, Au moment où tout le monde commençait à s'en inquiéter, ma mère, les frères et sœurs de ma mère, ses cousins, qui sont, et c'est important de le rappeler, éparpillés un petit peu partout, aux quatre coins du monde, en France, aux États-Unis, au Canada, en Israël. Donc tout le monde commence à s'en inquiéter et à plonger son regard sur Marrakech. Comme si Marrakech était devenu voilà, un grand phare au milieu du désert. Et tout le monde commence à émettre en fait, ses propres hypothèses sur ce que peut être ce bruit-là. Mais ma grand-mère continue de s'en plaindre, elle réfute absolument tout, et sur ce, ma mère et moi décidons de partir, mener l'enquête pour trouver sur place ce bruit-là.
Il y a donc une grande part d'autobiographie dans ce texte.
Absolument, c'est un texte de A à Z autobiographique. Je dirais, pour gâcher un petit peu le mystère, que la seule phrase peut-être qui n'est pas autobiographique, c'est l'adresse de ma grand-mère que j'ai voulu, dont j'ai voulu préserver l'intimité en quelque sorte. Et pour la petite anecdote, ça l'a énervée parce qu'elle aurait préféré avoir de la visite, ma grand-mère.
À la suite du roman.
À la suite du roman. Mais voilà, sinon c'est une histoire vraie et vécue.
D'accord. Et est-ce que vous êtes souvent allé à Marrakech ?
Alors, au moment de ce voyage, je n'étais pas allé à Marrakech depuis 10 ans à peu près. Mais les vrais souvenirs que je garde de Marrakech, c'est les souvenirs de ma petite enfance. D'accord. Marrakech, pour moi, je m'y vois, et je le dis dans le roman, à un moment où on entre en fait dans ce jardin que ma grand-mère a, les souvenirs que ça m'évoque, et dans son grand salon d'ailleurs, et dans ce jardin, les souvenirs que ça m'évoque, c'est mon frère et moi jouant là, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans peut-être. Et donc quand je reviens, je redécouvre en fait dans cet appartement figé tous ces souvenirs d'enfance.
Donc c'est quand même un roman de la nostalgie.
C'est un roman empreint d'une très grande nostalgie. Et d'une certaine manière, d'une très grande désillusion aussi. Et c'est la désillusion du narrateur, moi donc, qu'on suit tout au long du roman, sur beaucoup d'éléments, et notamment beaucoup d'éléments d'histoire qu'on va parcourir à travers le roman.
Au fil des déplacements dans Marrakech. Alors, en fait, ce livre tourne autour de la figure de votre grand-mère. Actuellement, toujours là. Et d'ailleurs, vous lui dédiez l'ouvrage. Vous en faites un portrait en fait magnifique, plein de grâce.
Les personnes qui ont pu me faire des retours sur ce roman m'ont dit que c'était un livre sur leur grand-mère.
C'est ça.
Et tout le monde me dit un peu ça finalement, que cette grand-mère incarne parce que elle fait tel geste,
c'est ça,
ou qu'elle dit tel mot, ou qu'elle a telle attention.
Il y a un moment qui ça m'a fait penser à ma mère et à ma propre grand-mère, c'est quand, parce qu'elle marche à petits pas, pour faire oublier qu'elle marche à petits pas, elle vous fait la conversation.
Absolument.
Effectivement, c'est toutes les grand-mères, ça. C'est un roman de la grand-mère, enfin, sur la grand-mère.
Absolument.
Mais elle a quand même sa spécificité, votre grand-mère, elle est très élégante. Moi, j'ai pensé à Rachel, l'actrice de La Recherche, parce que votre grand-mère est toujours en train de... Enfin, disons, elle a un tropisme avec Pourim. Elle aime se déguiser et en fait, c'est la reine Esther. On a l'impression d'une princesse orientale.
Et vous disiez l'élégance. Je pense que c'est quelque chose qu'elle n'a jamais perdu. Quelque chose... finalement, qui l'accompagne toujours, elle met un point d'honneur à rester toujours en tout temps élégante, même là où ça ne va pas, parce qu'elle était coiffeuse, ma grand-mère, dans le quartier du Guélize, et elle coiffait des femmes dont elle parle comme étant des femmes finalement de grande lignée, des expatriées françaises, et elle garde comme ça le souvenir de ce temps où elle-même le dit, elle rendait les gens beaux. finalement. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle aime profondément. Elle est attachée à sa chevelure, à ce grand chignon blond enfin, ouais, c'est ça. Qu'elle porte.
Mais d'une façon générale, vous avez une grande tendresse et un grand regard d'empathie et d'humour pour les femmes donc, de votre vie, votre mère, votre grand-mère. Ça vient d'où cette empathie pour les femmes ?
Ma mère, ma grand-mère, ma sœur aussi, ce sont dans ma famille, en tout cas, les gardiennes des traditions. C'est un rôle que personne ne leur a confié, mais qu'elles ont pris seules. Et je trouve ça très noble. Un rôle de tradition et de figure d'autorité aussi. Dans ma famille, une sœur, une mère, une grand-mère, on l'écoute. On apprend à l'écouter. On apprend tout, finalement, auprès d'une femme. Et c'est quelque chose que j'ai gardé. D'ailleurs, je reste, finalement, moi, en tant que narrateur de cette histoire, très silencieux tout au long du roman. Et quand je parle, je chuchote. Et quand je chuchote, c'est bien souvent pour demander à ma mère de traduire des phrases en arabe parce que je ne parle pas l'arabe. Mmh. Ou demander à ma mère des détails parce que parfois, on n'ose pas aussi demander à sa grand-mère des choses, des histoires cachées pour certaines raisons. On n'ose pas heurter la sensibilité aussi. Mais en tout cas, pour revenir à ça, il y a effectivement ce rôle de transmission qu'aucun homme ne s'est occupé dans cette famille, je trouve. Et elles savent tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles connaissent ces quartiers, elles connaissent ces rues, elles connaissent une fois encore ces traditions, sans carte, sans plan, sans GPS, sans rien. Tout le savoir, depuis des générations, est conservé là et chéri pour être partagé.
J'ai trouvé qu'il y avait un côté Eli Kaku, un côté Madame Sarfati dans Mchikpara. Vraiment, c'est cette grand-mère. Vous l'avez senti ça ? Vous avez pensé à Eli Kaku en écrivant ?
J'ai pas pensé à Eli Kaku, mais je connais bien Eli Kaku, encore une fois, pour avoir regardé beaucoup de ses sketchs. Je trouve que effectivement, elle a des traits d'humour. Assez impertinent finalement et assez inconscient aussi dans la manière dont elle parle, dans la manière dont elle réagit et dans la manière dont elle comprend les choses. Et je trouve qu'elle incarne ce savant équilibre entre un personnage très proche de l'enfance et très proche du vieil âge à la fois.
Oui, c'est ça.
Et cette sensibilité-là, j'ai voulu l'écrire.
Vous avez parfaitement réussi. Et il y a quelque chose. Alors, elle est drôle, comme Madame Sarfati, bien plus élégante que Madame Sarfati, rien à voir physiquement. Mais elle est drôle. Et à un moment donné, vous êtes sur la tombe d'un grand sage dans le cimetière de Marrakech. Et puis, elle commence à demander au sage de maudire les gens qui sont à l'origine du bruit. Et sa fille, votre mère, lui dit : Mais arrête, maman, arrête, maman. Et ça, c'est vraiment un moment drôlissime.
Et c'était un moment. Hilarant. Moi, j'étais derrière, un peu noyé dans cette incompréhension et à la fois dans ce fou rire-là, d'avoir en fait ces deux, entre les imprécations et les bénédictions, d'avoir cette double dynamique où l'une détruisait tout et l'autre essayait de réparer les choses au même moment et on était pris comme ça dans un tourbillon. Et à cet instant même, on a un petit oiseau qui se pose à la fenêtre. On ne sait pas. Ma grand-mère le prend pour un saint incarné, quelque part.
Oui.
Elle décide de s'adresser à lui, effectivement. Et l'oiseau finit par partir. Et ma mère en rajoute une couche pour dire, voilà, tu l'as énervé. Il est parti. Et la porte se ferme derrière nous par je ne sais quel mystère.
Oui, oui.
Et on se retrouve piégé.
Mais ça, il y avait vraiment des moments drôlissimes dans ce roman. Dans le cimetière juif, il y a aussi une scène très forte qui n'est pas drôle celle-là, un jeune Lubavitch, un jeune religieux avec chapeau et péote, qui est allé pèleriner le grand rabbi, Rabbi Anania Cohen, je crois, marche au milieu des tombes et vous semble perdu. Et vous dites alors, vous écrivez alors, car les juifs ne savent pas où aller. Ailleurs, vous dites que le juif est devenu un éternel pèlerin. C'est ce que vous ressentez ?
En tout cas, au Maroc, c'est ce que je ressens. Il semble perdu, cet homme, ce religieux, à l'intérieur du cimetière du Mehara, donc du cimetière du Mella, le vieux quartier juif. Et surtout, je me rappelle que ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il marchait très très vite. Je crois qu'on dit dans le roman qu'il marche comme un lièvre noir. Il court, et j'ai trouvé ça triste. Et ça m'a beaucoup marqué parce que il n'a pas le temps d'être ici. Il fallait se dépêcher parce qu'il n'est pas chez lui. Et quand on n'est pas chez soi, on évite de rester trop longtemps. Et ce passage-là m'a fait penser justement à cette errance perpétuelle. Donc effectivement, on est dans le Mella et quelques moments avant, on croise ce groupe d'enfants électrisés qui nous prend par la main et qui, moi, m'interpelle et me disent « Shalom Jacob » parce que je suis juif, bien que aucun signe ne l'atteste. Et donc, je viens nécessairement d'Israël. Et il y a quelque chose de très vertigineux là-dedans parce que ils ne savent pas que nous avons existé sur cette terre.
Bien sûr, ces enfants aussi sont perdus. Donc, comme le lièvre noir est perdu, les enfants aussi sont, en fait, ils sont perdus. Et vous appuyez sur leur étonnement quand ils entendent
ma mère parler arabe.
Oui.
Quand ils entendent ma mère parler arabe, ils ne comprennent pas, ils tombent des nues. On n'imagine pas qu'un tel étonnement puisse vivre dans les yeux d'un enfant de 6 ans, presque. Et ils sont tout confus, finalement. Parce que
qu'un Jacob, il parle hébreu.
Jacob parle hébreu et parce qu'on leur dit, en fait, quand ma maman leur parle arabe, on leur dit qu'on est comme eux. Et que ma mère a vécu avec leur père, qui n'est pas présent ici. Et que ma grand-mère a vécu avec leur grand-père. Et donc, on se retrouve, nous, face à face, cette génération. Évidemment, ils ont 6 ans, moi j'ai 24 ans à l'époque, on ne fait pas partie de la même génération, mais presque la génération de celle qui ne sait pas.
C'est ça, oui. C'est très fort dans le roman. Il y a une espèce de déperdition, à la fois de ce juif qui ne sait pas vraiment où il est, où elle est, et à la fois de cette génération qui ne sait pas
Et de moi qui ne sais pas aussi, c'est-à-dire que j'arrive devant eux, j'arrive dans ce quartier du Mella, et je pense que, et je l'écris, je pense que le Maroc est peuplé de juifs quand je viens. Parce que, comme je le disais, je garde ce souvenir de la petite enfance, quand j'avais 5 ans, 6 ans, et on y allait avec nos cousins, avec nos oncles, nos tantes, et on se retrouvait sur des immenses tables du Shabbat. Et pour moi, le Maroc, c'était le pays de notre judaïsme, d'une certaine manière. Si nous, on était si nombreux dans cet appartement, alors le Mella aussi était rempli de juifs, quelque part. Et c'est en ce sens que je dis, le juif est perdu, parce que à ce moment-là, je me retrouve très perdu devant le constat que ces enfants ont presque plus raison que moi. Ils ne savent pas, et moi, je ne sais pas. Et on se retrouve comme ça dans ce tourbillon très flou où on se découvre, et les uns et les autres. Moi, je découvre qu'ils ne savent pas que nous avons coexisté un jour, et eux découvrent mon existence, et je découvre par la même occasion que le Maroc n'est pas peuplé de juifs. Et il y avait quelque chose probablement de très, de très candide.
Oui, c'est candide, ça.
C'est naïf, presque, d'arriver et de penser comme ça qu'il reste énormément de juifs au Maroc et qu'en fait, ma grand-mère est presque la dernière. Oui, c'est candide. Mais du coup, ça a été une désillusion.
Ça a été une désillusion, une certaine forme de douleur.
Absolument. Oui.
Alors, il y a dans votre texte, alors c'est vrai, vous m'avez dit tout à l'heure, avant qu'on commence l'interview, que c'était un roman d'atmosphère. Et il y a dans votre texte une parole qu'on peut juger, alors, à la fois candide, mythique, Je pense par exemple aux paroles de votre mère. Elle fait référence à un temps, à des temps mythiques avant les Juifs et les Arabes s'aimaient. Est-ce que vous pourriez le reprendre à votre compte, ça ?
Oui, je pense. Je l'ai repris à mon compte et c'est pour ça que j'ai écrit ce roman. Quand elle dit ça, c'est vrai que on ne date pas vraiment avant. Elle parle d'une période qu'elle semble avoir connue. Elle parle d'une période que ma grand-mère semble avoir connue, bien que ma grand-mère hausse les épaules à cet instant et elle ne veut pas en parler. Mais je, encore une fois, à cet instant, quand on est dans la cuisine, sur le carrelage froid, je me rappelle, et qu'on est tous les trois, je crois que c'est à cet instant précis que j'ai décidé d'écrire ce roman. C'est à cet instant précis que j'ai eu l'impression que le bruit, d'une certaine manière, quittait les bras de ma grand-mère pour se jeter dans les miens, et que je comprenais quelque chose, et que je comprenais surtout que le Maroc était en train de m'échapper totalement, et que mon histoire aussi. Ma grand-mère a un certain âge.
Oui.
Elle est la dernière là-bas. Ma mère n'y retournera pas. Je n'y retournerai peut-être pas. C'est fini.
Dans la même orientation, à l'entrée du cimetière, votre grand-mère retrouve, comme ça, instinctivement, l'emplacement d'une boîte, elle appelle ça la boîte, où les gens déposaient tristement ce qu'ils ne pouvaient pas emporter avant de partir en Israël. Et là, j'ai eu l'impression que le narrateur que vous êtes semblait faire d'Israël la cause première de ce malheur. Est-ce qu'on peut dire ça ? Est-ce qu'on ne peut pas le dire ? Enfin, vraiment, je vous demande.
Je le comprends. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est un moment très triste que ma grand-mère voit. Elle est la seule à le voir, ce moment. Elle s'arrête sur les pavés du Mela, dans cette avenue-là, et effectivement, elle nous désigne une boîte. Et elle nous explique que tous les Juifs du Mela, avant de partir pour Israël,
oui.
Elle précise Israël, ça pouvait être la France aussi, les États-Unis, le Canada, oui. Comme je le disais, jetaient leurs affaires. Et dans ce roman, on ne pense presque pas à Israël. On ne pense qu'à ce qui a été perdu un jour. Au profit de quoi, je ne sais pas. Mais c'est cette tristesse qui nous accompagne à ce moment-là. De se dire que, bon, bah, finalement, et ce doute aussi de finalement, est-ce que quand ils font ça, est-ce que quand ils jettent leurs affaires dans cette grande boîte en bois imaginaire, est-ce qu'ils savent s'ils vont revenir un jour ?
Oui, c'est plutôt un questionnement, finalement.
C'est un questionnement.
C'est plutôt un questionnement qui laisse
Mais
les choses...
Elle les voit. Et nous attendons comme ça... dans cette image en noir et blanc, et nous les regardons tous, et ma grand-mère les salue une dernière fois. Chez moi, chez ma mère, il y a de la tristesse, mais chez ma grand-mère, à cet instant présent, il y a beaucoup de joie. Parce qu'ils sont là, ils existent tous. On se demande parfois si elle vit avec les morts ou les vivants. Et dans ces moments-là, elle est avec les morts, mais ils n'ont jamais été autant en vie. Et ils sont là près d'elle. Et ils se souviennent d'elle. Elle, qui les chérit tant. Elle entre dans ce cimetière
elle
où elle
embrasse,
va souvent
oui.
Et elle les embrasse.
C'est ça, oui.
Et elle embrasse des tombes de manière tout à fait aléatoire. Ce sont des tombes blanches, anonymes. Elle me dit que là, c'est son frère. Et là, c'est sa sœur. Et qu'ils sont morts du typhus quand ils avaient 4 et 5 ans. Et elle n'en sait rien, finalement.
Mais c'est un magnifique passage.
Elle embrasse 20 000 tombes sur lesquelles les écritures s'effacent et elle leur parle. Elle leur parle comme à travers un portail, quoi, entre les mondes. Et donc, il y a, malgré tout ça, de la joie.
Oui. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a un autre type de personnes qui parlent comme ça, qui sont aussi des personnes qui assurent l'intermédiaire entre les disparus et les morts et les vivants. Ce sont ces figures d'arabes veilleur plein de respect et d'amour pour les lieux juifs. Je pense notamment à cette magnifique figure de femme qui garde la tombe isolée d'un grand saint de l'Atlas.
Magnifique.
Magnifique figure de femme. Au père et à la fille qui gardent le cimetière. Vous les avez vraiment rencontrés ?
On les a vraiment rencontrés et ces personnes-là existent vraiment et veillent effectivement sur ces lieux. Il y en a beaucoup. Il y a effectivement la famille de ce gardien, Omehara. Mmh. Et il y a une certaine
forme... Omehara, c'est le cimetière de Marrakech.
Absolument. Oui. Il y a une certaine forme d'incompréhension, en fait. On se demande ce que ces gens font. Ils sont là et ils sont musulmans et ils veillent sur 20 000 tombes juives et ils le font avec la plus grande bienveillance qui soit, par amour pour cette mémoire, par amour pour ce possible qui a été un jour. Et ils le font et c'est tout. Et il y a effectivement cette femme, Fatma, qui garde la tombe de Shlomo Ben Shmuel Hasgin, qui est un saint vénéré par les juifs et les musulmans et qui nous accueille et qui nous protège du froid un instant et qui nous accueille comme si on était ses enfants. Mmh. Et il y a le meilleur ami de mon grand-père qui a repris son atelier pour en faire une boutique,
oui,
pour garder son souvenir.
Aussi.
Et voilà, il y a comme ça tous ces gardiens de mémoire, ces âmes séraphiques envoyées de Dieu en mission presque. Pour garder, pour couver ce qu'il y a de plus beau sur cette terre et tout ce qui nous unit.
Enfin, votre récit respire cette, ça et c'est à la fois très, très fort et très poétique. En tout cas, à la fin du livre, les trois personnages pelotonnés dans la chambre justement de la grand-mère entendent finalement une forme d'incarnation de ce bruit. Alors ça se passe pendant le journal télévisé, dans le tout petit écran mal réglé de la télé. En fait, ce bruit, ce sont les réacteurs de l'avion qui assurent la liaison Tel Aviv-Casablanca. Qu'est-ce que ça veut dire, cette fin ?
Cette fin est très belle. Une fois encore, elle est arrivée. Donc nous avons vraiment vu cette scène, surprenante scène, où la chambre... s'est noyé dans un brouhaha à la fois des grésillements de la télévision, à la fois de ce bruit très sourd de cet avion qui décolle et de tous ces hommes sur le tarmac qui regardent cet avion décoller. Et effectivement, les commentaires qui faisaient le lien assez facilement avec les accords d'Abraham.
Mmh, oui.
Je dis un instant... Ce bruit remplace tout le bruit du Guéliz. Mmh. Et ça signe presque la fin du roman et la possibilité d'un renouveau certain.
Est-ce que ce renouveau est encore possible d'après vous, après ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu depuis presque un an ?
Je le souhaite.
Merci beaucoup Ruben, merci. Alors vraiment, lisez donc d'urgence Ruben Baruch pour écouter tout le bruit du Guéliz. C'est un roman magnifique.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonjour, c'est Marc Velinsky. Pour les fêtes de fin d'année, offrez ou offrez-vous un livre de philosophie souriante. Pourquoi il est impossible de rater sa vie. Dans ce livre, je montre que même si vous connaissez l'échec, la déception, que vous n'avez pas réalisé vos rêves, vous ne pouvez pas rater votre vie. Pourquoi il est impossible de rater sa vie aux éditions First.
RCJ. RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info.
Un crocodile s'en allant à la guerre disait au revoir à ses petits enfants, traînant ses pieds dans la poussière. Il s'en allait combattre les éléphants. Danse, allez, croc-croc-cro, les croc-croc-cro, les crocodiles. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, croc-croc-cro, les croc-croc-cro, les crocodiles. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ils fredonnaient d'une marche militaire dont ils mâchaient les mots à grosses dents. Quand il ouvrait sa gueule tout entière, on croyait voir ses ennemis dedans. Allez, croc-croc-cro, les croc-croc-cro, les crocodiles. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, croc-croc-cro, les croc-croc-cro, les crocodiles. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Se prépara ce combat de géants. Mais près de là coulait une rivière. Le crocodile s'y jeta subitement. Danse, allez, croc-croc-cro, les croc-croc-cro, les crocodiles. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, croc-croc-cro, les croc-croc-cro, les crocodiles.
RCJ, à l'écoute de votre vie.
l'enfer dans tes yeux. À faire jurer tous les tonnerres de Dieu. À faire dresser des saints et